11h midi, ça fait du bien sur Europe 1. Anne Romanoff.
Bonjour à toutes et à tous, ça fait du bien d'être avec vous ce mercredi sur Europe 1. Depuis le Brexit, il se demande si ses enfants ne devraient pas abandonner l'anglais à l'école pour pratiquer plutôt l'américain. Heureusement que c'est sa femme qui s'occupe des devoirs scolaires, Jean-Philippe Pizzini.
Bonjour à tous, bonjour tout le monde.
Il est scandalisé de voir s'amasser les déchets sur les trottoirs de Paris, même si ça lui rappelle de bons souvenirs quand il vivait dans sa chambre d'étudiant, le bordélique devenu maniaque depuis qu'il a 30 ans, Ben H.
Maniaque et mature, bonjour Anne, bonjour la France.
Il est en colère contre sa banque, il ne comprend pas pourquoi elle refuse de lui accorder un crédit pour ouvrir un restaurant chinois, le visionnaire Sacha Judasco.
C'est une super idée pourtant.
Et celle qui a failli choper un coup de soleil au mois de février et qui se demande si elle ne devrait pas réserver ses prochaines vacances d'été au pôle Nord, Anne Romanoff.
Au sommaire de cette émission, nous jouerons à deviner qui je suis avec deux auditeurs qui tenteront de gagner un week-end thalasso pour deux personnes en hôtel 4 étoiles au bord de l'océan. Nous recevrons Fabien Lecoeuvre, spécialiste de la chanson française, pour son livre autobiographique « Une chanson dans la tête » qui vient de sortir aux éditions Le Passeur. Puis notre invitée, jusqu'à midi, sera l'actrice Aïssa Maïga, à l'affiche du documentaire « Pygmalion » de Quentin Delcourt au cinéma depuis le mois de janvier et de la série « Il a déjà tes yeux » à partir du 12 février sur France 2.
11h midi, Anne Romanoff, ça fait du bien sur Europe 1.
Alors je suis un petit peu énervée ce matin. Le président de la fédération de patinage, monsieur Gaillaguet, je ne savais rien, à qui on reproche d'avoir protégé des entraîneurs ayant agressé sexuellement des patineuses, ce monsieur a déclaré que le patinage est un sport à maturité précoce. Mmh. Ça veut dire quoi? Une jeune fille de 13 ans qui en paraît 17, elle est précoce, elle est mature, mais surtout elle est mineure. Alors monsieur Gaillaguet, je ne vois pas pourquoi je démissionnerais. Je crois que vous n'avez pas bien compris, on a changé d'époque. C'est fini les « oh bah j'étais pas au courant », c'est terminé les « ah oh, bah alors vraiment je savais pas, je me serais pas douté ». On veut plus entendre ces « oh bah j'en avais entendu parler, mais bon j'étais pas sûre que ce soit vrai ». C'est terminé les « oh bah je protège mes amis, n'en parlons plus, ça va se tasser ». Alors cet après-midi, monsieur Gaillaguet, j'étais pas au courant, j'y suis pour rien, va faire une conférence de presse pour révéler des informations sur les ministres des sports. Oui, d'après lui, l'indulgence envers les entraîneurs agresseurs de patineuses, ce serait la faute des ministres des sports qui ne sont plus en poste. Ben voyons. Bientôt, il va nous dire aussi que c'est la faute des sportives. Alors monsieur, je ne savais pas, j'y suis pour rien, reconnaît qu'il a commis des erreurs, mais pas des fautes. Erreurs, fautes, s'il vous plaît, ne jouons pas avec les mots, ne pas assumer ses responsabilités, de ne pas démissionner. Je ne sais pas si c'est une faute ou une erreur, mais je trouve que c'est une attitude qui manque singulièrement de dignité.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Voilà.
Hein, vous disiez que j'étais énervé.
C'est important de le dire.
Oui, bah, j'étais un petit peu sur... Alors, c'est le moment de...
Europe 1. Ça fait du bien de le dire.
Jean-Philippe Pizzini, quelques heures de partir en vacances, parce que vous nous quittez pour partir en vacances.
Le cœur en peine.
Ça a l'air. Pas, Jean-Philippe.
Vous avez un coup de gueule parce que vous trouvez que la vie est injuste.
Oui. Non mais c'est vrai, la vie est injuste. Pourquoi tout ce qui est bon nous fait du mal? Pourquoi c'est pas la raclette qui fait maigrir? Non, c'est les brocolis. Pourquoi c'est pas l'alcool qui rend intelligent? Non, c'est la badoit. Pourquoi c'est pas en mangeant du chocolat qu'on a des abdos en tablette de chocolat, hein? Vous imaginez, Anne, si c'était le cas, vous auriez pu finir Miss France. La vie est injuste, c'est vrai. Ça fait un an qu'il y a le prélèvement à la source. Bilan, eh ben avant, j'avais une source, maintenant j'ai une flaque d'eau. C'est injuste. En même temps, je me plains pas, j'ai un boulot. Vous savez, je suis resté tellement longtemps au chômage que quand j'ai retrouvé un boulot au Pôle emploi, ils m'ont fait un pot de départ. La vie est peut-être injuste, mais on en a une, alors moi, j'ai décidé d'en profiter.
Allez, petit retour sur l'actualité de ces derniers jours.
Je suis inquiet. Benjamin Griveaux veut déménager la gare de l'Est. Cédric Villani veut déménager la gare du Nord. Pendant un mois, il n'y avait plus de train. Bientôt, il n'y aura plus de gare. Alors comment on fait pour voyager?
Dans ta tête, fais comme eux. Prends de la drogue. Ah.
Face à l'épidémie de coronavirus, de plus en plus de Français portent un masque. Ça, c'est une bonne nouvelle.
Vraiment, vous trouvez que c'est une bonne nouvelle?
Oui, le masque, c'est vraiment une bonne nouvelle pour les moches.
Vous avez vu dans le sud, des records de chaleur ont été battus en février. 28 degrés dans les Pyrénées-Atlantiques, 27 dans le Var.
Oh, c'est top, ça. J'ai réservé 15 jours à Biarritz cet été. Alors par contre, vous savez où je peux trouver une crème solaire indice 430? 77% des Canadiens refusent de payer pour la protection de Meghan Markle. Les gars, si jamais, moi je suis bénévole. Nous sommes mercredi et déjà 48 heures que Benjamin Griveaux n'a pas eu de nouvelles idées lumineuses pour la capitale. On s'inquiète, si vous avez des nouvelles du petit Benjamin Griveaux, contactez-nous.
On se retrouve dans un instant sur Europe 1 avec Jean-Philippe Bizzini, Ben H, Sacha Judasco et deux de nos auditeurs qui tenteront de gagner un week-end Thalasso pour deux personnes en hôtel 4 étoiles en jouant à notre jeu Devinez qui je suis.
Une heure de détente avec Anne Roumanoff, ça fait du bien sur Europe 1. Anne Roumanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mercredi avec Jean-Philippe Vizzini, Sacha Judasco, Ben H. La loi pour la réforme des retraites est examinée depuis lundi à l'Assemblée nationale par une commission spéciale. Et vous, qu'est-ce qui, dans votre vie, mériterait d'être examiné de près par une commission spéciale, Jean-Philippe?
Ah ben, moi, j'ai quelque chose qu'il faudrait examiner avec une commission spéciale.
Beaucoup parce de choses, à mon avis.
Oui, parce qu'apparemment, j'ai un truc d'une taille hors norme.
Non.
Ah ben, c'est pas moi qui le dis, c'est ma femme. Elle m'a dit, c'est tellement gros que même elle s'en plaint. Ah oui, au début, ça la dérangeait pas, mais à force...
Non, mais Jean-Philippe, vous parlez de votre sexe, là?
Non, je parle de mon découvert. Je suis à moins 10 000 sur mon compte, et oui, c'est énorme.
Moins 10 000 ?
Oui.
Mais vous partez en vacances demain ?
Justement, c'est pour ça. C'est pour ça, j'ai tout mis dans les vacances.
Ah oui, tu les as pas mis dans les fringues.
Ni dans ta coupe de cheveux, d'ailleurs.
Vous êtes heureux de partir en vacances, Jean-Philippe ?
Non, c'est à contre-cœur que je vous quitte. Mais bon, de temps en temps, il faut savoir partir pour se faire désirer, pour revenir.
Et
meilleur.
Vous restez combien de temps ?
Le plus longtemps possible.
Sacha Judasco, vous avez besoin d'une commission spéciale ?
Non, mais moi, j'ai une commission spéciale qui examine de près ce que je mange, ce que je porte, avec qui je sors, avec qui je couche, à quelle heure je me couche.
Vous avez déjà une commission spéciale qui examine tout ce que vous faites ?
Alors, moi, j'appelle pas ça avoir une commission spéciale, j'appelle ça avoir une mère juive.
Votre mère surveille tout ce que vous faites ?
Mais tout.
C'est vrai ?
Mais elle prend soin de moi, vous savez. C'est une mère ashkénaze, mais avec des Roland de séfarade.
Mais par exemple, là, elle écoute l'émission tous les jours.
Là, elle est dans le public,
madame. Vous n'imaginez même pas. C'est-à-dire que bon, elle travaille toujours, elle tient un magasin de vêtements. Mm-hmm. Quand il y a des clients, elle dit « Chut, attendez, il y a mon fils qui passe à la radio ». Et elle fait vraiment, c'est ça.
Bah, dites-lui bonjour.
Bah, bonjour maman, et s'il y a un client, achète.
T'as une mère juive qui tient un magasin de vêtements ?
C'est cliché.
Faut arrêter avec le cliché.
Il est où ce magasin de vêtements ?
Il est à Boulogne-Billancourt, il s'appelle Jean-Jacques.
Non, mais ça va, vous allez pas faire la pub. Un magasin de vêtements qui s'appelle Jean-Jacques, ouais. Mais c'est quoi ce magasin de vêtements ?
Mais combien pour choisir le nom ?
Ça cartonne.
Mais elle vend quoi ?
Mais ça vend des costumes.
Ah, c'est pour hommes ?
C'est pour hommes, ouais.
Bah Jean-Jacques.
Oui, ça me semblait bizarre. Eh bah, ben dites, j'embrasse. Vous l'appelez maman ?
Bah bien sûr, j'embrasse ma mamounette.
Oh, c'est mignon.
C'est trop chou.
Et vous, Ben H, avez-vous une commission spéciale ?
Moi, j'aimerais qu'une commission spéciale examine un très gros dossier, un truc bien lourd, mes échecs amoureux. Autant de tentatives pour aussi peu de réussite, c'est quand même un gros échec. Ma vie sentimentale, c'est un peu comme les réformes du gouvernement. Il y a de la bonne volonté, mais ça finit toujours par coincer.
Bon, c'est le moment de notre jeu qui s'appelle comment, Sacha ?
Devinez qui je suis.
Europe 1, Anne Roumanoff.
Devinez qui je suis.
Le principe est simple, deux auditeurs en compétition, chacun choisit un chroniqueur qui aura 40 secondes pour faire deviner un maximum de personnalités dans l'actualité culturelle et médiatique de la semaine. Cette semaine, tentez de gagner un week-end pour deux personnes à l'hôtel La Grande Terrasse, hôtel et spa, situé à Châtelaillon, plage au port de La Rochelle. C'est un boutique hôtel 4 étoiles au style cosy et lumineux qui fait face à l'océan, entouré de 3 hectares de verdure. C'est un hôtel de la collection McGallery by Sofitel, avec des chambres vues sur l'océan, un jacuzzi extérieur et doté surtout d'un magnifique spa nuxe. Vous bénéficierez en plus de deux soins à la thalasso. Au spa marin, La Grande Terrasse. C'est là. J'essaye d'être sensuel.
Oui, on a vu.
C'est l'institut de thalassothérapie situé juste à côté.
Non,
de
c'est grotesque. Non,
mais pas du tout. Je détends les auditeurs.
Oui, détendez-nous.
C'est l'institut de thalassothérapie situé juste à côté de l'hôtel pour savourer l'ambiance apaisante et feutrée de cette magnifique thalasso qui fait face à l'océan. Allez voir ce très bel hôtel sur le site la-grande-terrasse.com.
Ça me rappelle les numéros roses que j'avais quand j'étais ado.
3615 Ula.
C'est 3615 Anna. Alors on joue avec Ambre. Bonjour Ambre.
Bonjour toute l'équipe.
Bonjour.
Comment ça va bien.
Alors Ambre, vous avez 43 ans, vous êtes vendeuse en téléphonie mobile, vous habitez à Capelle-la-Grande dans le Nord.
Exactement.
Vous êtes célibataire et fière de l'être.
Tout à fait. Comme... Moi, je suis pas embêté. Je suis pas comme Benach, moi. Il y a pas de problème. Moi,
allez, prends ça dans les dents.
Je les ai pas encore.
Oui, mais alors, vous avez pas toujours été célibataire, Ambre, quand même.
Non. Mais en fait, avec le temps, j'ai appris que effectivement, que valait mieux être célibataire, en fait, pour faire ce qu'on voulait.
Ouais, mais ça, je suis un peu d'accord avec ça. Ouais.
Voilà, le gang des femmes heureuses, quoi.
Comment Qu'est-ce que vous dites?
Non, comme ça, je suis content. En vacances, il n'y a personne qui est là pour m'embêter, quoi. Voilà, comme ça, il n'y a pas de problème.
Vous avez eu de belles expériences, ou j'ai l'impression
ouais, d'être content, votre ex.
Alors, vous... Non, mais bon. Bah, non, mais c'est ça, son choix.
Mais c'est bien, mais on respecte.
On respecte. Ambre, vous avez un joli prénom, en tout cas. Alors, Ad, vous jouez avec qui, Ambre?
Je vais prendre Ben H.
Ben H, liste 1 ou liste 2?
Oh, liste 2, allez.
Allez, liste 2.
Oui. Oh, bah, oui, très bien. Très bien.
Ça va.
Bien.
Plus facile, des personnalités.
Bon, alors.
Non, c'est bon, liste 2. Allez, on y va. Vous êtes prête? Moins de 40 secondes, un maximum de personnalité dans l'actualité culturelle de la semaine. Attention, top chrono.
Humoriste français qui faisait les petites annonces avec Franck Dubosc, qu'il était en duo avant avec
Dieu.
Ouais, c'est ça. Une chanteuse qui chantait Je t'aime, qui est toujours chanteuse.
Pas Laura Fabian, c'est ça, super.
Un humoriste qui a fait non, un acteur espagnol qui a fait le Masque de Zorro, très connu.
Antonio Banderas.
Oui, c'est ça. C'est une humoriste, elle a gagné 2 Molières, elle est toute seule derrière un micro.
Je passe.
La plus grande chanteuse Like a Virgin, grande chanteuse américaine pop de la pop.
Madonna.
Oui,
Madonna.
C'est ça, un chanteur québécois seul sur le sable, les yeux dans l'eau, mon cœur était trop beau.
C'est
pas Patrick Bruel, l'autre.
Non, je passe. Non,
d'accord, un footballeur numéro 10, il joue à Manchester et en équipe de France, il a une grande gueule.
Je sais plus.
C'est numéro pas
7.
Mal.
C'est numéro pas 7. Si mal. Alors, 4 bonnes réponses. Vous avez bugué sur Blanche Gardin qui joue dans le film Je suis là d'Éric Lartigot qui sort aujourd'hui au cinéma. Et vous n'avez pas trouvé Eric Cantona et Rock Voisine.
Rock Voisine.
On peut noter. Que...
Comment
Il n'y a que 2 chanteurs pour Ben H en France. Pas Patrick Bruel, l'autre.
Mais non, mais parce que c'était une rivalité à l'époque, les deux. Ils étaient très
beaux. Beau gosse, vous avez dire québécois.
Bah oui, j'ai dit québécois. J'ai pas dit beau gosse, c'est vrai.
En tout cas, écoutez.
Non, mais en fait, québécois, ça m'aurait pas aidé parce que en fait, j'étais parti sur Garou. Donc.
D'accord.
Quoi. Donc, voilà, quoi.
Vous inquiétez pas, calmez. Oui. Vous êtes un peu sur les nerfs, Ambre. Je pense qu'il faut
prendre
une
température.
Prenez votre température.
Mais Anne, je suis impressionnée,
c'est tout. C'est, oh, voilà, quoi. C'est le stress un petit peu du jeu.
Mais c'est rare qu'elle parle avec des gens, donc c'est.
Vous allez prendre une petite tisane à la camomille pour vous calmer.
Oui, un soupe au yoli tout à l'heure.
Bon, on va voir comment se débrouille Samuel. Bonjour Samuel.
Bonjour Anne, bonjour toute l'équipe.
Bonjour Samuel.
Samuel, vous avez 36 ans, vous êtes terrassier, vous habitez à Nieul-l'Espoir dans la Vienne.
Exactement.
Et vous écoutez l'émission depuis 2 mois grâce à un collègue, c'est-à-dire.
Exactement, c'est ça. Eh bien, le plus ancien de mes collègues, qui m'a fait découvrir justement la station, et dans le coup, j'ai adhéré.
Ah bah super, donc vous nous écoutez en faisant des terrasses, comment ça se passe?
Bah, oui, à peu près. Ouais, quoi. En fait, je suis aussi chauffeur poids lourd, donc dans le coup, par le biais de l'autoradio, bah, je peux profiter de l'émission, et puis voilà.
Vous jouez avec qui, Samuel?
Eh bien, a-t-on droit de reprendre Ben H?
Ah non, attendez, et puis Ben H, ouais, c'est pas le meilleur. Vous pouvez me prendre aussi, moi, hein, j'ai le droit de jouer, moi.
J'ai l'impression d'écouter les femmes de Paris, là, c'est incroyable.
Bon, bah écoutez, je vais partir avec Gwan.
Ah. Enfin, en même temps, je fais la maline, mais bon.
C'est un bon deuxième choix.
Alors, attention. Oh là 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 là.
Allez, vous êtes
prêts? D'un coup, j'ai peur.
C'est moi qui lance. 3, 2, 1, c'est parti.
Il faisait partie des nuls, il y a Alain Chabat. Voilà. c'est une chanteuse qui chantait dans Notre-Dame de Paris, elle a une très belle voix.
Hélène Segarra.
Oui. C'est un chanteur chauve qui est dans The Voice, jury. Non, il est balafré. Bon. Elle présente Envoyé spécial sur France 2, elle arrête pas dans Kikiner les patrons. Mais si, c'est une grande journaliste. Elle a présenté. Oui, bah ça va, bon. Passez. C'est une chanteuse dans Danse avec les stars. Bruce, qui est très jolie. Oui, c'est ça. Elle a un prénom comme un tigre, un lion, ça c'est un. Oh là 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 là!
Bravo!
Excusez-moi, c'est pas terrible. Hein.
Le duo était parfait.
Quand le candidat dit je passe, ça veut dire qu'il passe.
Oui, mais enfin, bah, oui, Pascal Obispo, c'est quand même pas super compliqué à deviner.
Bah non, mais il faut donner au moins un titre.
Comment?
Vous auriez pu donner au moins un
mais
titre.
Mais je n'en avais pas
bah oui,
qui
l'ont fait.
Chanteur chauve, balafré.
Je suis tombé pour elle.
Non, j'ai pas vu.
J'ai mon idéal.
Vous avez pas regardé mon idéal? Oui, j'ai.
Non, c'est mon millésime.
Mon millésime, oui, bah voilà. Voilà. Alors, vous, bon, vous avez trouvé. Voilà. Et vous n'avez pas trouvé donc Pascal Obispo et Élise Lucet quand même. Alors.
Ben non, ouais.
Ouais. Bon. Bah, Samuel.
C'est pas passé assez vite quand je l'ai dit.
Ouais. Bon, bah, vous, deux bonnes réponses. Là, vous avez perdu hein, d'une manière définitive.
Oui, on est bien d'accord.
mais vous gagnez quand même un cadeau de consolation, un bon cadeau de 50 euros à valoir sur le site cadeau.com, première boutique en ligne de cadeaux personnalisables. Des centaines de cadeaux pour inscrire un prénom, graver un message ou mettre une photo. Allez voir sur cadeau.com.
C'est génial. Je vous en remercie. Merci à toute l'équipe.
Continuez à nous écouter. On vous embrasse. Ambre.
Oui, merci.
Alors, je dois vous redire ce que vous avez gagné. Vous partez en week-end à l'hôtel 4 étoiles, la grande terrasse hôtel et spa située à Châtelaillon-Plage, aux portes de La Rochelle. Vous bénéficierez en plus de deux soins à la thalasso spa marin, la grande terrasse, pour savourer l'ambiance apaisante et feutrée de cette magnifique thalasso qui fait face à l'océan. Plus d'infos sur le site la-grande-terrasse.com.
Ben, merci beaucoup, franchement c'est super, c'est génial. Voilà. Et merci à Samuel d'avoir été galant. Voilà. Bah,
il a fait ce qu'il a pu, lui.
Il n'est pas galant, il était nul. Hein, c'est tout.
Continuez à nous écouter, Ambre.
Merci, je vous embrasse tous, merci beaucoup.
Au revoir.
Pour jouer avec nous, laissez un message avec vos coordonnées sur le répondeur de l'émission 39-21, 50 centimes d'euros la minute, ou via le formulaire de l'émission sur le site europe1.fr. On se retrouve dans quelques instants sur Europe 1 avec Sacha Judasco, Jean-Philippe Vizini, Ben H et notre premier invité Fabien Lecoeuf pour son livre autobiographique Une chanson dans la tête qui vient de sortir aux éditions Le Passeur.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mercredi avec Jean-Philippe Vizini, Léa Londo,
bonjour.
Et notre invité qui est chroniqueur télé, radio, impresario, attaché de presse. Il est le spécialiste de la chanson française à laquelle il a consacré plus d'une cinquantaine d'ouvrages. Depuis plus de 40 ans, il se promène dans les coulisses du showbiz. Il en a des choses à raconter. Il vient justement nous présenter Une chanson dans la tête, un livre autobiographique où il se raconte, sans oublier de nous dévoiler de nombreuses histoires sur ceux dont il a croisé la route, comme Clo-Clo, Johnny Hallyday, Paul Naref ou François Mitterrand. Applaudissez Fabien Lecoeuf. Bonjour Fabien Lecoeuf.
Bonjour Anne, bonjour.
Bienvenue
à tous
sur Europe 1.
Bonjour.
Alors vous venez régulièrement d'ailleurs dans l'émission de Wendy Bouchard, vous connaissez bien
tous
Europe 1.
Tous les week-ends.
Tous les week-ends.
Plus de week-ends, je passe mes week-ends avec Wendy maintenant, 18-20h.
Vous êtes devenu la référence en matière de chanson française Fabien Lecoeuf, vous n'avez pas de concurrent à part Wikipédia.
Oui mais c'est le temps qui m'a positionné en fait, on ne veut pas forcément faire ça. Moi je voulais, quand j'étais petit, je voulais être impresario, je trouvais ça formidable, c'était un nom qu'on n'utilise plus aujourd'hui évidemment. Mais j'étais fasciné. Quand j'avais une tante, une vieille tante qui s'appelait Simone, qui m'emmenait voir des spectacles, c'est comme ça que j'ai vu Luis Mariano. J'avais 10 ans, j'ai vu Josephine Baker en 75, etc. Et alors je voyais toujours entrer des artistes, accès aux coulisses. Alors ça me fascinait et je ne pouvais jamais y aller. Et à partir de là, ça a développé chez moi une forme de passion qui, voilà... Et puis un jour, ben, grâce à Lynn Renault, j'ai franchi la porte des coulisses.
Surtout que vous aviez une enfance qui était compliquée quand même.
Oui, parce que mais comme des millions de Français, on a toujours eu des parents très autoritaires, souvent. Ça a bien changé. Et moi, je recevais beaucoup de raclées. Je faisais des conneries en même temps. Donc, j'étais parfois mérité, si on peut parler ainsi. Et puis, j'avais un père très autoritaire qui pensait que je voulais être ingénieur, médecin, notaire, avocat.
Il était catastrophé quand il vous voyait regarder des émissions de variété à la télé.
Alors ça, c'était un truc. J'ai gardé cette phrase en mémoire. C'est-à-dire qu'un jour, j'étais dans le salon et je regardais la télé. C'est une époque où il n'y a pas la télécommande. Il fallait se lever pour changer de chaîne. Préciser pour ceux qui nous écoutent. Et donc, il passe, il éteint violemment la télé. Mon père, il me dit, file dans ta chambre, va faire tes devoirs. C'est pas avec ces conneries que tu vas gagner un jour ta vie. Et j'ai gardé cette phrase parce que finalement, après, vous savez, c'est freudien. C'est-à-dire qu'on veut faire, finalement, grâce à mon père, je savais ce que je voulais pas être. Mais c'est surtout que j'avais des punitions incroyables. Parce qu'un jour, mes parents ont tenté, je raconte dans le livre d'ailleurs, ont tenté de me perdre dans les bois.
Ils vous ont dit, tu ne connais pas tes talents, on va te perdre dans les bois.
On ne veut plus que tu sois notre enfant.
C'est violent quand même.
Habille-toi. Non, mais
vous aviez quel âge ?
Habille-toi. J'avais, je ne sais pas, 6, 7, 8 ans. Oh. Comme ça. Et vous vous rendez compte, c'est-à-dire que c'est ce qu'ont vécu les enfants de ma génération. Et je ne suis pas le seul. Hein. C'est-à-dire que l'autorité parentale, elle était mais complètement absurde. Mm-hmm. D'une méchanceté. Moi, je n'ai jamais levé la main sur ma fille. J'ai une fille qui a 25 ans. Je veux dire, jamais.
Parce qu'elle connaît ses tables, elle.
Ouais.
Et donc là, votre père vous dit, je vais te perdre dans la forêt. Vous dites au revoir à vos sœurs.
Va dire au revoir à tes sœurs.
Non, oui, c'est horrible,
vous
c'est traumatisant.
Non, c'est affreux. Je monte dans la déesse familiale. Mon père est au volant.
En pleurant.
Je suis derrière. Moi, je pleure les larmes de mon corps, évidemment.
Oh, non.
Il me dit, voilà. Et puis, en faisant la marche arrière avec la déesse, il me dit, bon, mais tu vas les apprendre, tes tables. Oui, je vais les apprendre. Alors, je pleurnichais. Donc, il m'a dit, bon, alors, on refait un essai. Donc, on remonte. Mais t'apprends tes tables.
Oh là là, combien d'années de psychanalyse ?
Vous imaginez ? Non mais c'est terrible. C'est
mais par contre, ce qui est bien, c'est qu'à un moment, vous avez pu discuter avec votre père et il s'est excusé de tout ça.
Ah. Oui, parce que je pense qu'il a, il a compris le sens des choses, mais en même temps, je n'en veux pas.
Mais
parce
ça a
que...
été très long, cette discussion. Je veux dire, il y a peu de temps avant sa mort, en
peu
fait.
Peu de temps
avant
sa disparition, exactement.
Vous étiez en voiture avec lui ? Vous
je
avez...
suis parti, exactement, je suis parti dans le nord de la France avec lui, et puis on a parlé pendant 2 heures. J'ai dit, mais enfin, quand même, c'est incroyable. Il s'est toujours opposé au métier que je faisais. Et sauf quand il a vu après, il était content parce que les gens lui parlaient quand il voyait la télé. Alors là, il était fier que ce soit son fils à la télé parce qu'il a, il voyait que le regard des autres était complètement différent et qu'il n'y avait pas que les métiers d'ingénieur qui finalement pouvaient...
Et là, il vous a dit « je m'excuse ».
Ouais, il m'a dit « il faut que tu m'excuses ». Parce que je n'ai pas eu cette analyse, cette réflexion. Moi, j'ai grandi dans un pensionnat avec une éducation parentale très sévère, Troisième République, un peu, et c'était un peu compliqué, quoi.
Et donc, il vous a dit « je m'excuse » et vous avez dit quoi ?
Ben, j'ai dit merci, mais il n'y a pas besoin de s'excuser entre parents et enfants.
Si, c'est important.
Oui, c'était important de se le dire avant qu'ils disparaissent.
Vous lui avez dit « je te pardonne » ?
Je n'ai pas osé dire ça parce que je ne sais pas...
Vous aviez prendre de peur de vous en prendre une ?
Non, puis on traverse une forêt à ce moment-là. Je ne voulais pas.
On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invité Fabien Lecoeuf, venu parler de son livre « Une chanson dans la tête » qui vient de sortir aux éditions Le Passeur. Ne bougez pas, on revient.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mercredi avec Jean-Philippe Bisini, Léa Landau, Ben H. Et notre invité Fabien Lecoeuf veut nous parler de son livre autobiographique Une chanson dans la tête. Alors Fabien Lecoeuf, vous avez fréquenté beaucoup de chanteurs, ouais. Claude François.
Entre autres au début de ma carrière, oui, parce que je cherchais des stages en maison de disques. J'ai eu mon bac donc très tôt. Après, j'ai fait 2 ans de chambre de commerce à la Chambre de Paris pour faire plaisir à mes parents, évidemment. Puis après, je me suis lancé.
Et là, vous présentiez déjà à la Chambre de commerce un journal télé.
Télévisé, ouais, en circuit interne, déjà, dans les grandes métropoles françaises. Et puis un jour, on a reçu Lynn Renault dans ce journal télévisé, qui est venue parler de sa énième rentrée au Casino de Paris, déjà. Et puis, j'ai reçu une invitation après à Jean Cher.
Là, vous avez quoi, 17 ans, 18 ans ?
17 ans et demi, à peine.
Ouais. Et donc, vous parlez avec elle, elle s'intéresse à vous ?
Ouais, parce que je lui parle de Jean Noin, que j'avais rencontré 4 ans plus tôt. Alors qu'il signait des livres, et c'est la première fois que j'avais entendu quelqu'un me raconter une histoire de chanson. Il m'avait raconté l'histoire d'un... Il était un petit navire, Jean Noin. Il était sur un podium. Et alors, je raconte ça à Lynn Renault. Alors, elle était fascinée, elle ne connaissait pas l'histoire. Elle trouvait que, pour mon âge, de connaître Jean Noin, c'était déjà miraculeux.
Et vous dites, ce qui fait le succès de Lynn Renault, c'est qu'elle s'intéresse aux autres. Oui. Et qu'elle a fait beaucoup de choses pour les
c'est
autres.
C'est une femme précieuse. C'est un personnage.
Vous avez travaillé aussi pour Michel Polnareff.
Oui, alors ça, c'est « Je t'aime, moi non plus ».
Parce
nous.
Que vous
souvent,
vous
des fois, on se dispute, après on se réconcilie, on se dispute.
Et là, vous êtes comment, là ?
Là, on est un peu en froid, en ce moment. Mais bon, je ne désespère pas. Hein.
Vous avez travaillé 15 ans avec lui ?
14 ans, ouais, c'est déjà bien, déjà. C'est miraculeux, hein, franchement.
Parce que vous dites, c'est quelqu'un qui a tendance à oublier ce qu'il dit, en fait.
Oui, des fois, il a des...
Il signe un contrat, il dit « je ne l'ai pas signé ».
Oui, c'est un prestidigitateur. C'est-à-dire que des fois, il oublie des choses essentielles. Ouais. Ça peut arriver, mais c'est pas grave en même temps. Ça fait
vous dites
partie.
Que les artistes sont aussi des grands enfants. Vous dites qu'ils ont chacun un âge d'enfant dans leur tête, Fabien
Oui,
Lecoeuf,
parce qu'en fait, j'ai repris la phrase de Claude Lelouch, importante, qui a dit un jour une phrase tellement vraie, on a le même âge toute sa vie. Je pense que c'est vrai aussi pour vous, Anne, qui montez sur scène. Je pense que vous avez le même âge.
35 ans, 35 ans.
35, non, mais quel âge
vous avez, je pense que vous êtes resté entre 18 et 20.
C'est
mais
bon.
C'est, non mais
en
c'est,
ce moment, c'est pas faux.
Ouais, voilà. Ouais, non mais c'est, je suis sûr.
Et vous avez quel âge, Fabien Lecoeuf, vous ?
Moi, je dois avoir... moi, je suis un peu vieux déjà. Je pense que j'ai 23-25 ans.
Et alors, Claude François, il avait quel âge ?
Alors lui, il était resté à 16-18.
Et Michel Polnareff ?
14.
Et Johnny Hallyday,
c'est drôle.
Au bac, 14 ou 15 aussi, je pense. Mais sincèrement, regardez, observez les gens autour de vous. C'est pas que les gens célèbres.
C'est
je
vrai.
Pense qu'on a le même âge toute sa vie. Et vous le voyez aujourd'hui, tous ces types que je croise, moi, qui ont pratiquement mon âge, c'est-à-dire qui touchent quand même la soixantaine, ils arrivent tous habillés comme des mômes de 19 ans de la Starac ou de The Voice. Non, mais franchement. Vous les voyez en Nike, en Reebok, ils sont en Adidas, ils sont avec leurs jeans, ils ont des attitudes de boys band. Enfin, c'est hallucinant, c'est-à-dire. Les types, ils ont quand même 3 fois l'âge.
Vous parlez du chanteur d'Indochine ?
Ah non, mais je ne parle pas des teintures de cheveux, j'en parle même pas de ça.
Alors, au moment de la mort de Johnny Hallyday, Fabien Lecoeuf, vous avez participé à plus de 53 heures de direct sur BFM, CNews, LCI, NRJ12, TF1, M6.
Oui.
Vous avez inventé le Téléthon du commentaire ?
Je ne sais pas, mais...
Non, il paraît même que vous avez même dû réviser pour trouver des anecdotes, pour ne pas vous répéter, quoi.
Non, c'est surtout que j'ai même raconté la mort de Johnny Hallyday. Ça a commencé à 2h20, 2h30 du matin. Candice Mahou de BFM a téléphoné, elle me dit « vite, 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 mais comment tu ne réponds pas au téléphone ?» Je dormais. Et ma femme, Anne, me dit, écoute, ce téléphone, j'en peux plus, parce que je n'ai pas le droit de mettre le téléphone dans la chambre, comme beaucoup, vous savez. Donc ça sonnait dans la cuisine, ça sonnait, j'y vais, je crois que c'était pour ma mère. Et je décroche et on me dit, mais Johnny Hallyday est mort, mais putain, on t'attend, le chauffeur est en bas de chez toi. Ouais. Je dis, mais attends, c'est bon. Donc je reviens dans la chambre, je dis à Anne, je m'en vais, elle me voit que je m'habille, je me rase. Elle me
dit, sans vous doucher.
Oui, sans me doucher. Elle me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, Johnny Hallyday est mort. Alors elle me dit, ah bon, et alors? Bah, je dis, je m'en vais. Donc j'arrive à, je sais pas, à 3h30 du matin, j'étais au maquillage sur la chaîne Info. Et puis, je sais, ils m'ont pris parce qu'il faut, il faut raconter des histoires.
Oui, bien sûr.
On ne savait pas les jours des obsèques, on ne savait pas vraiment de quoi il était vraiment parti. Enfin, donc, il faut quand même raconter.
Fallait meubler, quoi.
Donc, j'ai raconté plus d'une centaine d'histoires entre 4 heures du matin où on a pris l'antenne et, je sais pas, et 7 heures.
Vous avez un petit peu mitonné pour combler le
non,
temps
ou pas? Non, alors moi, je suis arrivé, je savais plus quoi dire. Ouais. J'avais raconté pratiquement de la maternelle de Johnny Hallyday.
Alors
après, j'ai comparé, parce qu'on ne savait rien sur ses obsèques. Et les gens commençaient à poser des questions, les journalistes, etc. J'ai dit, écoutez, je pense que c'est un élément aussi important, la disparition de Johnny Hallyday, qu'à la fin du 19e, où on a enterré le 1er juin 1885, on a enterré Victor Hugo. Et moi qui ai lu tous ces journaux de l'époque, que ce soit Le Siècle, que ce soit Le Figaro, que ce soit tous ces grands titres de l'époque, Le Gaulois, on racontait les obsèques de Victor Hugo. Il y avait 2 millions de personnes dans Paris. Donc j'ai d'un seul coup, moi qui suis un grand fan de Victor Hugo, j'ai dit je vais faire un parallèle sur les deux événements. Il y en a un par siècle. Il y a eu Hugo, donc, les obsèques. Et en plus, la mort de Victor Hugo a un peu été comme celle de Johnny Hallyday. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'agonie comme ça pendant une semaine. On ne savait pas s'il allait mourir, s'il était mort, s'il était... Enfin, c'était un peu... Malheureusement, c'est comme ça. Donc, j'ai fait ce parallèle, ce qui m'a permis de meubler, d'expliquer. On attend plus d'un million de personnes dans Paris, évidemment. Ça a été suivi par 15 millions de personnes à la télé. J'ai fait une espèce de... Je me suis fait insulter.
Ah bon ?
Sur tous les réseaux sociaux.
D'avoir
comment Lecoeuvre compare Johnny Hallyday à Victor Hugo. Bien sûr, je ne comparais pas l'œuvre de Victor Hugo.
Vous étiez levé à 2h du matin, c'est ça que les gens savent. Bah ouais. Vous n'avez pas pris le petit déjeuner, vous n'étiez pas douché. Hein,
non, mais je comparais l'événement, oui, évidemment. Donc voilà. Donc,
il paraît que vous avez un rêve, Fabien Lecoeuvre, c'est d'être ministre de la Culture.
Ben, j'aimerais bien, en tout cas, je ne sais pas si c'est un rêve, en tout cas, j'aimerais bien être appelé à de hautes fonctions pour modifier certaines choses et en tout cas pour protéger les artistes et ceux qui travaillent autour des artistes, qui souvent n'ont pas une vraie sécurité longtemps.
Oui, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire pour ça?
Je pense qu'il faut reconnaître l'art. À mon avis, l'art et sécuriser l'art, trouver un moyen de soit d'une retraite, mais déjà organisé, parce que moi je connais tellement d'artistes qui sont dans la misère alors qu'ils nous ont enchantés. Sans artistes, il n'y a pas de rêve et c'est le bonheur. Non mais le rêve, imaginez-vous un jour une vie sans chansons, sans cinéma. C'est impossible. Moi quand je vais voir une pièce de théâtre, quand je vais voir un artiste, là je vais aller voir quand ils passent les artistes au cinéma, quand ils filment des spectacles, tout ça, j'adore ça, moi quand je n'ai pas pu les voir sur scène, etc., comme vous l'avez fait il y a quelques jours. Donc, non mais c'est important. C'est-à-dire que, bon, moi, je vous ai vu souvent sur scène, Anne, mais bon, j'ai pas besoin d'aller au cinéma, j'ai pas besoin d'y aller, en tout cas, là. Mais pour moi, c'est important de voir tout le monde et c'est un bonheur.
Vous restez, ça après toutes ces années, Fabien Lecoeuvre, vous restez fasciné par les artistes?
Oui, sinon, je change de métier.
Mais il y en a qui vous ont déçu, forcément.
Non, parce que ça peut être des absences de mémoire quand c'est Paul Naref, par exemple.
Des absences d'humanité. Il y a des gens qui sont égocentriques dans les artistes. Enfin, ils sont pas. Moi, je trouve pas que les artistes soient supérieurs au reste de la Terre, quand même.
Si, parce que moi, je pense que quand ils sont égocentriques ou narcissiques ou qui ont trop d'ego, je pense que sans ego, vous ne montez pas sur scène. Parce que ça demande, c'est pas quand même des métiers dans la normalité de l'humain, on va dire. Monter sur scène, parler à 2, 3 000, 4 000, 5 000, 10 000 personnes le soir, c'est quand même des métiers, il faut quand même une forme d'ego, de narcissisme, peu plus que les autres.
Et non, vous avez de l'ego, Fabien Lecoeuvre?
Bah, j'étais obligé d'en avoir, parce que pour parler à une caméra aussi, et puis pour rire avec les équipes de télé, ou être aux côtés d'un Patrick Sébastien, ça demande un peu d'ego. Alors c'est le bon ego, c'est pas le mauvais, c'est comme le cholestérol. Il y a le bon et le mauvais cholestérol. Là, il faut quand même il faut un bon ego, parce qu'on ne monte pas sur scène, c'est impossible. Si, excusez-moi, et qu'on est timide et qu'on pique un phare, moi, comme j'étais quand j'allais à l'école, j'allais au tableau, j'étais timide. Bon, ça m'a vite passé, hein, après. Hein. Mais je pense qu'on ne monte pas sur scène, il faut un peu d'ego. C'est pas possible, sinon. Donc, moi, les artistes, je les aime parce que. Puis, comme je connais leur enfance, je les étudie par cœur. Donc, je connais leurs blessures. Et à partir de là, on est indulgent et on a beaucoup de tolérance avec eux. Donc, je me fâche jamais.
Merci Fabien Lecoeuvre d'être passé nous voir. On rappelle votre livre Une chanson dans la tête qui vient de sortir aux éditions Le Passeur.
On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invité Aïssa Maïga, venu nous parler du documentaire Pygmalion au cinéma depuis le 22 janvier 2020 et de la série Il a déjà tes yeux sur France 2 à partir du 12 février à 21h05.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous ce mercredi sur Europe 1 avec Mickaël Quiroga, Léa Londo, oui. Ben H. Et notre invitée ce matin qui est actrice, auteure et réalisatrice. Vous l'avez découvert devant les caméras de Cédric Clapiche, Claude Berry ou encore Michel Gondry. Elle a joué dans plus de 50 films et séries télé. Elle a bouleversé le milieu du cinéma en déclarant dans un livre puis dans un documentaire cette phrase désormais célèbre « Noir n'est pas mon métier ». Cette actrice désormais incontournable a en ce moment une triple actualité puisque vous pourrez la retrouver en replay dans la série « Escale fatale » sur Arte, dans le documentaire « Pygmalion » de Quentin Delcourt et dans la série « Il a déjà tes yeux » sur France Bleu, sur France 2, pardon, à partir du 12 février. La belle Aïssa Maïga est avec nous aujourd'hui sur Europe 1. Ouais. Bonjour Aïssa Maïga.
Bonjour Anne Roumanoff.
Bienvenue sur Europe 1. Vous avez été révélée dans les poupées russes et votre actu est en forme de poupée russe. Il y en a une qui cache une autre, ainsi de suite.
C'est pas faux.
Vous avez déjà entendu parler d'un concept assez répandu qui s'appelle les vacances?
Ça me dit quelque chose. J'en rêve, hein. Je ne le cache pas.
Vous avez une boulimie de travail, Aïssa Maïga ?
Non, je ne suis pas boulimique. Moi, j'adore ma vie quotidienne sans travail aussi. J'adore les vacances et tout. Mais c'est vrai que dans ce métier, quand les belles occasions se présentent, on n'a pas envie de partir en vacances.
Alors, on vous a vu dans la série Escale fatale, diffusée sur Arte, qui est disponible en replay. Vous incarnez une migrante dont le mari n'a pas survécu à la traversée en quittant son pays. Et votre personnage, vous a dit que vous n'avez pas pu refuser ce rôle ? Ça vous a bouleversé ?
Bah, c'est une série qui est très forte. C'est à la fois très sombre, c'est un thriller, et en même temps, c'est vraiment le portrait de la société irlandaise qui connaît l'immigration que depuis très peu de temps, sachant que les Irlandais ont émigré du fait de l'extrême pauvreté pendant des siècles, et aujourd'hui, ils sont de l'autre côté du miroir, et c'est aussi le portrait d'une femme qui s'appelle Abeni, que j'incarne donc, et qui est une femme magnifique, prise dans une situation intolérable, et qui fait tout pour rester digne et forte.
Le casting de cette série Escale fatale est international. Pour une actrice, c'est un sacré challenge. Ça fait quoi de jouer avec des acteurs qui ne sont pas français ? Ça a changé des choses pour vous ?
Ah non, mais surtout, le truc, c'est de tourner en anglais avec l'accent du Nigeria.
Surtout, ça donne quoi ?
Et aussi, l'autre challenge, c'est de comprendre l'accent des Irlandais. Maintenant, je le comprends. Mais j'avoue qu'au début, après leur faire répéter une phrase 5 fois, à la fin, des fois, je disais oui et je souriais, sans rien comprendre, parce que ce n'est pas du tout l'accent qu'on apprend à l'école.
Et c'est quoi, du coup, l'accent anglais
avec l'accent nigérien ?
En nigérien, ça donne
quoi ? Ah non, je ne sais le faire que si j'ai un texte.
Alors, on peut aussi vous voir, Aïssa Maïga, dans le documentaire Pygmalion de Quentin Delcourt, qui a choisi de mettre en lumière 11 femmes du milieu du cinéma, dont vous. Il a déclaré au sujet de ces femmes, « Si fort, heureusement, une certaine parole se libère. Ne serait-il pas bon d'agir et de parler de vous à travers vos films plutôt que de balancer des porcs sans pour autant que les consciences ne s'éduquent réellement ?»
Quentin a dit ça ?
Ouais.
Bon, j'ai pas tout bien compris. Mais en tout cas...
C'était bien.
On le remercie.
Mais en tout cas, Quentin Delcourt, c'est quelqu'un qui a fait ses études en partie en France, mais aussi au Québec. Et il faut savoir que la question de la diversité au Québec, elle est vécue très différemment.
Comme dans toute l'Amérique du Nord.
Et là-bas, c'était complètement normal que dans les séries, dans les films, au cinéma, soient représentées toutes les franges de la société, sans distinction de race, de classe, de genre, d'orientation sexuelle, de religion, etc. Et donc, quand il est revenu en France, ça lui a fait tout bizarre. Et il a décidé de donner la parole aux femmes dans ce documentaire qui s'appelle donc Pygmalion, un mot nouveau qu'on adopte complètement. Mm-hmm. C'est bien de féminiser certains mots et là, ça donne beaucoup de puissance à ces femmes qui sont plus des mentors que des muses. J'ai vu ça dans un article et je trouve que c'est assez juste. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a à la fois donc, des actrices, donc c'est des figures auxquelles on est habitué, mais aussi une agent artistique, Elisabeth Tanner, une chef opératrice qui est donc en charge de l'image, de la caméra, des exploitantes de salles, etc. Et ça donne un panorama assez complet de ce que peuvent vivre les femmes et de ce que sont dans le cinéma et de ce que sont les challenges, les choses qu'on doit dépasser.
C'est un milieu très machiste, le cinéma.
Je pense que le cinéma est à l'image du reste du pays.
Oui, mais encore.
C'est-à-dire, il est divers. Donc, il y a des gens qui sont des réactionnaires et puis il y a des gens qui sont à la pointe de certains combats. C'est assez divers. Mais par contre, je pense qu'on se doit d'être un petit peu en avance sur son temps dans le cinéma.
Il faudrait, normalement.
Parce qu'on a la chance d'être en contact avec tellement de gens. On a la chance, en général, de voyager. Moi, quand je prépare un rôle, du coup, je me documente. Donc, ça ouvre mon esprit. Donc, il est pour moi impensable que dans un milieu qui est censé être aussi ouvert et qui se targue de l'être, qu'on soit dans quelque chose qui n'est pas de l'ordre du progressisme réel.
Mais vous trouvez que les choses bougent à Issamaga ou que c'est long quand même?
Les deux.
Ça bouge,
les deux
mais
en général. Non, mais ça bouge beaucoup trop lentement. C'est-à-dire, évidemment, qu'il y a des avancées.
Y a quand même
sinon, je ne serais même pas là pour en parler.
Oui, mais il y a quand même une grande différence entre les discours. Tout le monde est toujours d'accord de faire des beaux discours et la réalité des choses.
Alors, c'est vrai. Et il y a en même temps une réalité générationnelle. Je pense que les jeunes qui arrivent sont dans une fluidité par rapport à la question de la diversité. Et pour eux, c'est complètement normal de regarder des films, des séries avec des gens très différents les uns des autres. Ça fait partie de la normalité. Et du coup, les chaînes classiques, françaises notamment, sont obligées de se mettre à la hauteur. Donc, elles commencent à se tourner vers le digital et elles commencent aussi dans leur programme à envisager des personnages noirs normaux.
Qui ne soient pas des prostituées ou des dealers.
Et surtout, qui ne soient pas des rôles caricaturés. Parce qu'il peut y avoir des rôles de prostituées, de dealers magnifiques. Il y a eu des rôles majeurs dans le cinéma, avec ce genre de personnages. Le problème, c'est surtout la façon dont c'est traité. Le fait que ce soit stéréotypé, cliché, et parfois, pourquoi pas raciste.
Mais ça bouge, ça, quand même.
Mais ça bouge. Ça bouge parce que les gens sont prêts à entendre, déjà, dans le milieu. Ce qui est une différence incroyable avec ce que j'ai vécu à mes débuts au siècle dernier.
Au siècle dernier. Vous allez nous parler du siècle dernier après la pub. Ne bougez pas, on revient.
Anne Roumanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mardi avec Mickaël Quiroga, Léa Landau, Ben H et notre invitée Aïssa Maïga venue nous parler d'une triple actualité, Escale Fatale, une série internationale sur Arte disponible en replay, documentaire Pygmalion au cinéma depuis le 22 janvier et la série Il a déjà tes yeux à partir du 12 février à 21h05 sur France 2, c'est tout, ça va?
Le reste on en
parlera
plus tard.
Vous n'avez pas l'impression de piquer le boulot des autres là? Aïssa Maïga, la raconte.
On a perdu Aïssa Maïga.
Racontez-nous ce qui a changé depuis le siècle dernier alors.
Bah, ce qui a changé, c'est qu'il y a une prise de conscience générale sur la question des femmes, sur la question des droits des femmes, de l'égalité homme-femme, des droits des enfants, et aussi sur la question ethno-raciale, sur la question des minorités qu'on appelait visibles au siècle dernier.
Aïssa Maïga, vous êtes dans la série Il a déjà tes yeux sur France 2, qui passe à partir de la semaine prochaine, qui est issue de la suite du film Il a déjà tes yeux, dans lequel vous jouiez également, le film de Lucien Jean-Baptiste.
Absolument. Oui, alors le film, c'était l'histoire de ce couple qu'on formait avec Lucien, donc des Français. Ils sont noirs, ils n'arrivent pas à avoir d'enfants, ils adoptent et on leur donne un bébé blanc, blond, aux yeux bleus. Et à partir de ce point de départ où il y a un renversement qui est fait par rapport à ce dont on a l'habitude, Lucien a développé une comédie qui était très drôle et en même temps... qui est une critique sociale et en même temps qui est très tendre avec beaucoup d'émotions. Et en fait là, pour la série, il a décidé de faire grandir l'enfant. Donc là, ce bébé qu'on a connu dans le film a maintenant 14 ans.
D'accord.
Et entre temps, comme beaucoup de couples qui rencontrent des problèmes d'infertilité, après avoir certains couples, après avoir adopté, il y a quelque chose qui se débloque et donc on a eu un autre enfant. Et là, on a deux adolescents. Un blond, donc, et un noir. Donc, pour nous, ce n'est pas un sujet, mais voilà, ça donne lieu à...
Et c'est une série en combien d'épisodes?
Six épisodes. Et franchement...
C'est brillant.
Non, mais je pense que Lucien a encore une fois déployé tout son talent, qui consiste à prendre une situation particulière pour décrire une famille française et à un petit peu déplacer... le point de vue pour parler de ce que c'est que la différence, mais pas simplement noir-blanc à travers le racisme, etc. C'est aussi les différences de génération, c'est les différences sociales. Il arrive à convoquer tout ça avec beaucoup de grâce, quoi.
Mais le film est génial, déjà. Non, le film est très réussi.
C'est très gentil de le dire.
Mais c'est vrai.
Merci.
Et donc la série, c'est à partir de mercredi 12 février à 21h05 sur France 2.
Tout à fait.
Avec plein de comédiens.
Plein de comédiens, parmi lesquels ceux qu'il y avait dans le film, et puis des nouveaux aussi. Franchement, il y a des vrais numéros d'acteurs. Et je ne parle pas de moi, il y a des vrais numéros d'acteurs, il y a des acteurs qu'on connaît, qu'on est hyper heureux de retrouver, et puis d'autres qu'on ne connaît pas. Il y a des gens qui sont révélés de tous âges. Ouais. Et rien que pour ça, c'est
ça. Il faut regarder, il a déjà tes yeux à partir du 12 février sur France 2. Vous avez quitté le Sénégal à l'âge de 4 ans avec votre père, sans votre mère. Ensuite, votre père meurt quand vous avez 8 ans et demi. Vous êtes élevé par votre oncle et tante.
Oui.
Et c'est quand même un début de vie qui n'est pas facile. Et quand on vous voit tellement rayonnante, tellement belle, heureuse...
J'ai eu mes drames. Et puis, voilà, ils m'ont bousculée, mais ils m'ont aussi construite. ils m'ont construite parce que j'ai été accompagnée toujours de gens incroyables depuis la prime enfance jusqu'à aujourd'hui. Et ça, je considère que c'est ma bonne étoile. Vous c'est avez... les gens qui ont été mis sur mon chemin, qui m'ont aidée à entrevoir ce qu'il y avait de puissant de, dans la vie, ce qu'il y avait de beau. Et,
il y a notamment
et
une...
puis moi, je suis comme ça. J'ai mes coups de mou, mes moments de spleen, de petite déprime. Ça peut m'arriver, mais la plupart du temps, quand même, il suffit que je regarde le ciel. Il suffit que je pense aux gens que j'aime. Il suffit aussi parfois que je compare avec ce que d'autres peuvent traverser. Je me dis, non, mais wesh, j'ai trop de chance.
Mais j'ai trop de chance.
J'ai trop de chance.
Il y a notamment...
J'ai trop de paillettes dans ma vie.
Il y a notamment une voisine qui a été comme une grand-mère adoptive et qui a eu une phrase quand même qui a été très importante pour vous. Elle vous a dit, Aïssa, il y a des gens qui t'aiment et qui t'entourent, mais dis-toi que tu n'es pas comme la plupart des enfants. Tu es seule désormais, sans ta mère ni ton père. Il faut que tu sois forte.
Ouais. Et en fait, ça a été une phrase très importante parce que quand mon père est décédé, bah, comme beaucoup d'adultes à l'époque, dans ma famille, les gens ne savaient pas trop comment l'annoncer. Ils ont pris le temps pour me protéger, etc. Et donc, les adultes, en voulant vous protéger, parfois, vous éloignent de du réel. Et cette femme, qui était vraiment comme ma grand-mère, hein, que j'adorais, elle m'a dit ce qu'était la réalité. Elle a mis des mots sur ce que je vivais. Et finalement, même si c'était un peu dur à entendre, d'abord, elle était là pour accueillir ma peine. Mais surtout, c'était vrai, je pouvais m'appuyer là-dessus pour continuer. Il faut dire la vérité.
Mais quand même, c'est rare de voir quelqu'un d'aussi rayonnant.
Mais vous êtes trop sympa. Moi, j'ai envie de... Mais vous voulez pas m'adopter? on devient sœur.
Oui, parce que moi, là, je regarde Aïssa là, et elle a déjà vos yeux.
Merci Aïssa Maïga d'être passée nous voir. On rappelle la série, il a déjà tes yeux, 6 épisodes à partir du 12 février à 21h05 sur France 2. Le documentaire Pygmalion sur la place des femmes au cinéma de Quentin Delcourt depuis le 22 janvier 2020 au cinéma. Merci à vous.
Merci beaucoup, je suis virée là, c'est ça?
Oui, c'est fini.
Okay, au revoir.
On vous laisse en compagnie de Raphaël Duchemin pour écouter Le Monde Changer. On sera de retour dès demain à 11h sur Europe 1.